bonjour et merci d'être présent. C'est toujours difficile dimanche matin. D'abord, il y a nos amis qui sont encore à la messe, et puis il y a aussi ceux qui ont ça encore en dimanche à la famille, au petit déjeuner, parfois encore à l'hommage à Morphée. Bref, merci aux leftos courageux, à ceux qui sont venus rencontrer nos auteurs suisses. Chaque année, on a un pays invité, et chaque année, on essaie de faire un petit peu le point avec les auteurs du pays invité, justement, sur les axes forces un petit peu de ces littératures. Vous allez commencer, pour certains d'entre vous, à découvrir nos amis suisses. Je vous recommande donc, pour mieux les découvrir, dans les semaines et les mois à venir, Laboratoire d'anticipation helvétique, Futur insolite, une anthologie dirigée par Hélène Avdija, qui n'est pas là, et Jean-François Dobat, qui, lui, est là. C'est donc une anthologie suisse qui présente, en fait, enfin une anthologie sur la Suisse, plus exactement, à 2 millions de Suisses, qui est aussi quelque chose à penser, qui présente un regard sur la Suisse demain. Et puis toujours Jean-François Thomas, Défricheur d'imaginaire, une anthologie historique de la science-fiction suisse romande. Et là, c'est un panorama du 19e siècle à nos jours, à peu près, hein, si je me souviens bien, il y a un petit moment. Et puis, troisième opportunité de le découvrir, même si les auteurs ne sont pas là, Vincent Gessler et Anthony Valla, chez Rivière Blanche, Dimension Suisse, une anthologie de science-fiction fantastique, roman. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi découvrir. Et puis, les livres de nos invités. Tout d'abord, Georges Blanchard, avec Forteresse, que vous pouvez trouver aux éditions Robert Laffont, il y a des belles éditions. Et puis, néanmoins, et moins cher, vous trouvez la version du livre de poche. Et là, par contre, vous n'avez que la version grand format, Heptagone, qui est une prolongation, on va dire, qui peut se lire indépendamment, mais qui est enrichie par la lecture de Forteresse. On en dira un petit mot. Et puis, en tout cas, la trilogie de Laurence Suner, une seule femme parmi nos invités, et c'est elle qui fait du space opéra. Comme moi, les idées reçues selon quoi le space opéra est un genre exclusivement masculin, ça a pu être vrai il y a bien longtemps, et même dans les années 30-50 aux États-Unis, ça ne l'était pas. Donc, encore une fois, nos amis suisses n'hésitent pas, ils vont pas casser les idées reçues. Donc, une très belle trilogie aux éditions La Talente. Bientôt, faut pas le dire. Pour le moment, ils ont que le grand format.
Non, il est annoncé déjà.
Bon, bientôt chez Folio, ouais, très bien. Ce qui est toujours une belle reconnaissance quand on est repris après dans une collection de poches réputées, estimées comme nos amis de Gallimard Folio. Bien. Donc, petit panorama de la science-fiction suisse. Peut-être d'abord demander à notre ami Jean-François Thomas. On a bien vu qu'il sévit régulièrement dans les anthologies. Il a fini par être un peu cet homme orchestre qui d'abord écrit des nouvelles lui-même. Je vous renvoie évidemment à l'anthologie Destination où notre ami fait partie des 14 auteurs au sommaire, a écrit d'autres nouvelles dans les anthologies, dans le roman, mais maintenant qu'il est à la retraite de son métier d'éducateur, sans rentrer dans les détails, je pense qu'il aura peut-être l'occasion de faire du travail sur un livre long, en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il a animé la maison d'ailleurs, le grand musée de la science-fiction suisse, enfin je crois qu'il était dans son conseil surveillance pendant une dizaine d'années, 10 ans si je me souviens bien, et par ailleurs, bon, il a animé beaucoup d'initiatives, voilà. Disons que la science-fiction suisse ne ressemble pas à ce qu'elle est sans le travail, la passion et la compétence de Jean-François Thomas. Parfois, on demande au Jean de l'enfant. Jean-François, comment s'est un peu constitué ces dernières années, peut-être un petit mot sur le passé, la science-fiction suisse, comment se fait-il que c'est un petit pays quand même, sinon en plus on prend la partie romande, a pu quand même générer un certain nombre d'auteurs, vous êtes 4 de ces représentants, mais il y en a beaucoup d'autres, vous êtes quand même bien vingtaine, trentaine d'auteurs un peu publiant régulièrement. Pourquoi y a-t-il cette vivacité de la science-fiction de Suisse romande?
Bonjour tout d'abord, merci d'être là. La vivacité de la science-fiction suisse romande, c'est assez intéressant effectivement. Ça a commencé par un Français, je crois qu'on peut dire ça comme ça. C'est Pierre Versin qui est venu en Suisse et qui a constitué une immense collection de science-fiction qui a créé en fait la Maison d'ailleurs, ce qui est le seul musée au monde consacré à la science-fiction, les voyages extraordinaires et l'utopie. Alors il existe un autre de ces musées aux États-Unis, mais là-bas ils ont plus d'objets que de livres. Versin a vraiment consacré sa vie à réunir des ouvrages de science-fiction et à faire un travail colossal qui a abouti à deux choses, ce musée d'une part et son encyclopédie d'utopie des voyages extraordinaires et de la science-fiction qu'il a publié en 1972 aux éditions d'Âge d'Homme à Lausanne. Et puis j'ai eu la chance de le rencontrer, et d'ailleurs François Bouillet aussi a eu la chance de le rencontrer, et la discussion avec lui, finalement, il m'a montré que j'étais passionné par la science-fiction, ce que je savais probablement déjà. Et puis, j'ai eu l'idée de plonger un petit peu la science-fiction suisse romande, parce qu'il avait fait un article dans son encyclopédie, et il y avait des tas de titres que je ne connaissais pas, des auteurs que je ne connaissais pas, et je me suis intéressé à ça, et je les ai lus, j'ai écrit mon mémoire de licence en lettres à l'université sur la science-fiction suisse romande, et j'ai découvert des textes intéressants qui n'existaient plus vu que c'est lui qui publié il y a longtemps. Et j'ai eu l'idée de faire cette anthologie de science-fiction historique. Et pour être très concret, j'étais une fois au Salon du Livre de Genève où je tenais un stand d'un journal libéral. Et à côté, il y avait un éditeur qui s'appelle Bernard Campiche, qui est un éditeur littéraire, un des principaux éditeurs littéraires suisse romande. Et puis j'ai dit comme ça, vous seriez intéressé par une anthologie de science-fiction. Et j'étais sûr qu'il allait me dire non. Ça m'a pris 2 ans pour faire ce livre qui est apparu dans la collection, une collection de poches, et qui était beaucoup plus gros que ce que j'avais pensé. Pardon. Quoi qu'il en soit, l'idée c'était de montrer que la science-fiction suisse existait et que ce n'était pas d'aujourd'hui. Le premier texte s'appelle 1884, et je suis allé jusqu'à 2004 en l'occurrence, l'anthologie apparaît en 2009. Il y a un texte de François Bouillet, il y a un texte de Georges Planchard dedans, qui présentait les contemporains. Et cette anthologie a connu un beau succès. Elle est notamment référencée dans l'histoire de la littérature du son monde, maintenant, au bouquin qui recense tout ça. Et, bon, ensuite, c'est vrai que j'ai dirigé le conseil de fondation de la Maison d'ailleurs, après François Bouillet d'ailleurs. Ce qui fait qu'on était au cœur du sujet, là, ouais, de la matière. Et puis, plus récemment, il y a Elena Ardija qui m'avait approché, c'était aux Utopias de Nantes, je me souviens, elle a dit, si on faisait une anthologie sur la Suisse comme sujet, et puis j'ai trouvé l'idée intéressante, mais elle n'osait pas se lancer tout seul, elle m'a demandé mon avis, et nous l'avons fait à deux, cette anthologie. On a lancé un appel à texte sur Internet et nous avons eu une bonne quantité de textes, une 60aine. Nous en avons sélectionné 14. On a fait travailler certains auteurs, d'autres, ça n'allait pas trop mal. Et finalement, l'idée, c'est d'avoir une vision contemporaine des auteurs contemporains pardon, qui jettent un regard sur un sujet particulier de la Suisse. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des thèmes qui sont revenus. Notamment le thème le plus fréquent qu'on a vu le plus souvent, c'est le thème sur le suicide assisté. Vous savez qu'en Suisse, c'est légal, quand on est très vieux, très malade, de pouvoir demander une mort médicamenteuse. Je ne sais pas comment ça va vivre. Et puis, c'est bien un thème qui pose des problèmes éthiques, un problème de société. Les auteurs se sont intéressés à ce sujet. Mais bien sûr, on est dans la Suisse des ponts, la Suisse du chocolat. Ça va de soi. Et puis voilà, par rapport à ce panorama en quelque sorte.
C'est vrai que mon intérêt pour la science-fiction suisse débarque là déjà un bon moment, puisque en 1984, je commençais depuis quelques années à faire des critiques littéraires, après dans le monde des fictions. Qui a vraiment beaucoup monté en France, et j'ai eu l'opportunité de faire un numéro spécial à une anthologie francophone de science-fiction. Il y avait donc un auteur suisse, Georges Marchand. Il y avait un auteur québécois, un auteur belge, il y avait des auteurs français. Et ensuite, j'ai fait un numéro spécial, d'ailleurs, mentionné dans la préface de Jean-François Thomas, de la revue canadienne Imagine. Il devait faire dossier sur ce qui se passait, tout l'intérêt des auteurs suisses, avec 5 nouvelles et 4 articles de fond. Donc voilà, ce n'est pas une découverte récente, c'est un intérêt qui se poursuit, qui débouche aujourd'hui sur la Suisse pays invité. Deuxième anthologie, avant de passer à nos auteurs de romans, Laboratoire d'anticipation helvétique, j'aime beaucoup la formulation, Futur insolite. Donc c'était non pas une anthologie suisse, mais une anthologie sur la Suisse demain, imaginons la Suisse en quelque sorte, avec des auteurs suisses et des auteurs français.
Oui, c'est ça. Effectivement, c'est, il s'agissait de s'emparer du sujet et puis de nouvelles sur le sujet. Il y a trois auteurs français, dont Jean-Marc Ligny, qui figure dans les pages de cette anthologie. Et je vais rajouter quelque chose. Ça a été publié chez l'éditeur Bevezan, qui s'appelle Elie Sellas. De science-fiction que je vais avoir le plaisir de diriger, dans laquelle vont paraître de nouveaux récits qui ne seront pas forcément des auteurs suisses, mais qui seront des livres qui nous paraissent dignes d'intérêt, dignes d'être portés à la lecture du public.
Très rapidement, parce qu'on va tous les citer, mais au sommaire, on y trouve par exemple Olivier Sidig, qui est un de nos invités suisses, on y trouve François Rouillet et encore bien d'autres. Y compris des auteurs suisses, mais pas non plus, notre budget n'est pas sensible à l'infini. On n'a pas pu en inviter plus que 6 cette année, mais on a derrière au moins encore une bonne vingtaine d'auteurs qui ont écrit qui un roman qui est nouvelle.
Oui. Nicolas Alluc se trouve dans la salle, c'est un des auteurs de l'anthologie. Il vient de sortir un roman d'ailleurs aux éditions Stentor, qui s'appelle Les Communants, dont j'ai fait une critique de galactique dans les nouvelles galaxies. Voilà, alors, représentant cette nouvelle génération d'auteurs.
Voilà, on avait en fait espéré avoir une aide d'un organisme suisse qu'on n'a finalement pas obtenu, donc on n'a pas pu. On espérait avoir une dizaine d'auteurs. Ça fait partie aussi des aléas parfois des festivals. J'ai cité un certain nombre d'auteurs et de livres, mais j'ai oublié, mais pas vraiment en fait, François Rouillet qui lui a commencé comme. D'abord, on a vu un petit peu comme Jean-François, il était un des hommes orchestres de l'ancienne génération qui ont joué un rôle, je dirais, plus global sur le développement, la reconnaissance, la constitution du milieu de la science-fiction suisse. Il a aussi, donc, chronique de la maison d'ailleurs. On voit bien à quel point c'est un centre, un peu un rayonnement qui a été quelque chose qui a donné une reconnaissance à l'étranger pour la science-fiction suisse, qui est quand même un modèle un peu de musée. Et un musée de grande qualité. Et puis aussi, François Rouillet a publié des nouvelles, j'ai eu le plaisir d'en publier plusieurs, dans la revue Galaxie, que j'ai autrefois dirigé. Et après avoir été un nobeliste régulier, mais donc relativement rare, je précise que notre ami Jean-François est dans le civil, encore longtemps pharmacien, et d'un seul coup, il s'est lancé, autant qu'il y pensait, j'imagine, il s'est lancé dans un roman. Somme, puisque c'est paru ce roman en 2 volumes qui s'appelle Metakin à la Talente, et ce roman a eu des nominations, a été quand même distingué, c'est un roman qui marche bien, on peut le dire, alors que c'est un très pavé, un 2 bons romans à la Talente, et c'est sur un. Bon, ça parle du futur, ça parle de globalisation, ça parle de surveillance, ça parle aussi de contrôle de la population, de la jeunesse et des moins jeunes, et ça parle d'une molécule miracle, la Metakin. Qui permet aux enfants agités de devenir sages, on pense à la Ritaline évidemment, et ça permet aussi aux parents et aux enseignants d'avoir des élèves non seulement dont le niveau progresse, mais qui en plus ne posent plus aucun problème de discipline. Quel bonheur, ils sont tous souriants dans les classes, complètement obéissants, et ils progressent. Finalement, François Rouillet, c'est cette conception-là que vous avez, vous, comme pharmacien, le bonheur grâce à la pharmacopée.
Et les enseignants qui ont en leur classe des enfants soi que dans un tel roman, étant du métier, étant pharmacien hospitalier essentiellement, ayant entre autres dans ma profession la mission de préparer des dossiers pour documenter des choix de médicaments qui vont être prescrits dans un collectif d'hôpital, je suis très familier des vantardises de l'industrie pharmaceutique et la partie la moins science fictive du roman, celle de décrire un peu les pratiques de l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est un domaine que je connais très bien. Donc inévitablement, je n'ai pas pu m'empêcher de me permettre quelques critiques sur la façon dont procèdent certaines de ces multinationales. Mais cela dit, je ne voulais pas faire un roman manichéen où d'un côté vous avez des empoisonneurs qui essayent de promouvoir des substances pour conquérir une clientèle la plus volumineuse et la plus soumise qui soit, mais vous avez une offre, des promesses faramineuses, mais de l'autre côté vous avez une demande. Vous avez de la part de la population des espérances absolument folles placées dans certains médicaments. On voudrait que le médicament améliore tout dans la vie. Donc le roman, j'essaie de le rendre plus nuancé que ça en suivant six personnages qui, à divers titres, sont confrontés avec ce médicament, soit pour, parce qu'ils sont menacés par une institution scolaire ou autre, ou l'institution hospitalière, d'être mis sous traitement de métaquine. Donc, est-ce que ça va leur convenir? Il y a des doutes, il y a des critiques. Et vous avez en face les promoteurs de la molécule qui, au contraire, essayent de promouvoir leur panacée. Donc, en balayant comme ça un personnage à l'autre, j'ai essayé de nuancer un peu mon propos et de suivre l'évolution des différents personnages.
Georges Panchard, deux volumes, alors vous avez écrit une vingtaine, une vingtaine, vous écrivez peu, des textes qui sont souvent marquants, et beaucoup de vos nouvelles ont été publiées dans des revues ou anthologies, et souvent reprises ensuite, ce qui est toujours flatteur pour un auteur de voir que ces textes sont appréciés, sont repris régulièrement, un auteur de talent peu fréquent, et puis, enfin, vous avez lutté contre votre emploi dans l'industrie, plus exactement dans l'aviation civile suisse. Vous avez réussi à lutter contre votre paresse naturelle, je vous cite, sinon je ne me permettrai pas, et écrire un roman. Premier roman, en tout cas le seul à ce jour, mais j'ai cru comprendre que vous étiez à nouveau taquiné par la muse pour un prochain livre. Vous avez donc écrit Forteresse, qui a été un véritable coup de tonnerre. Alors j'ai eu la chance de découvrir ce roman avec Jean-Claude Dignac, parce qu'à l'époque, nous travaillions pour une maison d'édition aujourd'hui disparue, qui était sans doute très mal conçue au niveau de sa gestion et de sa conception, mais qui en fait a publié beaucoup de beaux textes, et qui n'a pas, heureusement pour lui, publié Georges Panchard, et qui a repéré le livre qu'il a beaucoup aimé, et qui, évidemment, l'a fait passer à l'éditeur de Robert Laffont, en disant, on avait signé un contrat, on ne doit pas, mais on ne pourrait pas le publier. Donc, si vous voulez, évidemment, c'est vous qui pouvez publier. Et comme c'est quand même un homme de goût, Gérard Klein, il a publié quasi pas de modification, c'est un livre totalement abouti. Georges Panchard, je précise que l'éditeur de Laffont n'aime pas beaucoup, en général, les auteurs francophones, les trouve pas très bons. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il dirait plus ça, en lisant La Nouvelle Génération, mais à l'époque, en tout cas, et ne publiez jamais, tout en lisant J'en cherche, d'auteurs francophones publiés, mais en concertant. Et il a publié, quasi seul dans un désert de 15 ans, le roman de Georges Panchard. J'y insiste, à la limite ça n'a pas d'intérêt, mais c'est une façon d'assister pour ceux qui n'auraient pas encore acheté le bouquin pour leur dire bon, c'est un grand livre. Comme disait notre ami Panchard, je fais l'attaché de presse, mais avec un grand plaisir, parce que c'est vraiment une parfaite réussite. C'est une mécanique d'abord, intellectuellement brillante. C'est un thriller futuriste. C'est un monde, pour ceux qui n'assistaient pas à la précédente conférence, on l'a un peu développé, un monde où les religieux et les religions ont pris de l'importance, beaucoup d'importance, trop d'importance, où les États bibliques américains sont venus des puissances du globe extrêmement vindicatives, où il y a eu des intégristes musulmans en Europe avec une guerre civile, où il y a eu des affrontements entre intégristes religieux juifs de courants différents. Bref, un monde en proie à tous ces problèmes, et face à ça, les seules forces progressistes, paradoxe, dans la société d'aujourd'hui, sont des grandes multinationales qui semblent un peu, finalement, les grandes corporations, sans doute pas parfaites, mais presque une protection par rapport à ces dangereux fanatiques religieux. Et l'histoire de Forteresse, c'est l'annonce que l'un des dirigeants d'Amiland Corporation, une grande entreprise installée en Espagne, Forteresse, entre guillemets, installée en Espagne, est l'objet d'une attaque. Le dirigeant est l'objet d'une attaque des États publics américains. Il y a un projet d'assassinat. Le projet s'appelle Fantôme. Le problème, c'est que le responsable de la sécurité d'Amiland n'en sait pas plus. Et pendant tout le roman, on se demande quel est ce projet Fantôme, comment il fonctionne, et ce qu'il arrivera au bout, c'est-à-dire assassiner le dirigeant. Ça, c'est donc un thriller passionnant, qu'on ne lâche pas. Et puis, c'est aussi la description d'un monde dont on voit les prémices aujourd'hui, avec ces montées d'intérêtsme religieux et à la fois ces grandes corporations industrielles. Est-ce que c'est en puisant un petit peu dans votre regard, c'est déjà un roman qui a une quinzaine d'années, est-ce que c'est en puisant, Georges Ponchard, dans votre regard sur la société américaine et européenne, sur les grandes tendances à l'œuvre qu'on voit peut-être encore un peu clairement aujourd'hui, que vous avez imaginé ce monde futuriste qui se situe en gros entre les années 2020 et 2039, le monde de Forteresse?
Parce que quand on écrit un récit de science-fiction à un horizon de 20 ans à peu près, on est presque inévitablement dans l'extrapolation de ce qu'on vit actuellement. Maintenant, ce qui est drôle, je l'ai dit hier dans le cadre d'un autre débat, c'est que c'est le thème qui m'intéressait, c'est cette espèce de thème de réflexion. Je crée vraiment une forteresse, je crée une citadelle, je crée des niveaux de protection, des murs dans tous les sens du terme à l'infini, mais il y a quelque chose qui va peut-être traverser, et c'est ce jeu entre l'offensif et le défensif. Et au départ, j'avais imaginé, parce que la maturation, enfin, la pré-écriture était assez longue, mettre ça dans un décor plutôt médiéval. Et j'en parlais hier, je faisais allusion à un roman de Ian Burns qui s'appelle Inversion, dans lequel il y a un personnage qui est le protecteur de l'empereur et qui se bat à la dague et à la manette. Mais là, la problématique, la thématique finalement était la même. Alors maintenant, dans un univers qui est ultra high-tech, donc où les technologies d'intrusion progressent très vite, donc il faut que les technologies de défense progressent également très vite, c'est un monde dans lequel, oui, il y a eu une prise une montée en puissance toujours plus grande des corporations, des grands groupes économiques, mais en devenant les acteurs majeurs, ils deviennent les ennemis directs. Donc ils entretiennent de véritables armées privées pour s'entretuer et pour lutter sur le terrain. Bon, il y a déjà des exemples, évidemment, avec tout l'espionnage industriel. Il y a eu des cas entre dans l'entreprise où vraiment on frisait le code pénal et pas seulement sur le domaine. Et pas seulement sur le domaine il y a la paranoïa du défenseur qui est confronté à ce genre de menaces en permanence. Mais c'est aussi un roman sur le thème du temps et la perception du temps, parce que il est dans un univers tellement high-tech qu'il est totalement habitué à gérer des offensives qui se passent dans les secondes qui suivent. Et avec des réactions ultra rapides et automatisées. Quand tout à coup il est confronté à une attaque qui se déroule sur des mois, il a passé un sous du radar, il ne la remarque pas. Et ça me frappe beaucoup par rapport à l'évolution de la perception du temps qu'on a aujourd'hui. On est de plus en plus dans l'instantané, et les gens qui étaient dans le débat précédent, enfin, ça atteint des dimensions invraisemblables. Les systèmes informatisés de l'acquisition et revente de titres, où il faut le contact avec Wall Street, et on va physiquement prendre un bureau qui est plus près de la centrale où les acquisitions se font, parce qu'on gagne du temps par rapport à la circulation de l'information dans une fibre optique. Donc ça dépasse complètement la perception du temps qu'on peut avoir.
Quand on construit un thriller de SF, donc un relativement encore court terme, est-ce qu'on construit une histoire suisse, ou est-ce que c'est un thriller européen? En un mot, le fait que vous soyez un auteur suisse, est-ce que ça a influencé le contenu et la rédaction de Forteresse, ou est-ce que finalement vous considérez le considérait plutôt comme un auteur, je dirais, européen.
En Suisse, non, et européen, je me définis comme occidental, athée et francophone, je veux dire. Il y a des gens qui ont dit que c'est très américain. Donc, je veux dire, pour moi, non, je ne sens pas de caractéristiques de ce qui.
J'ai entendu le mot athée qui vient de mon nom, sans Dieu.
Enfin, dépend.
Oui, certainement, c'est évident, ça dépend de qui. Mais je dirais que dans votre roman, quand même, on voit une hostilité très profonde à la religion. Vous considérez les religions, hein, ce n'est pas une phobie particulière. On voit bien que les athées musulmans sont un danger, mais on voit bien aussi que les publics protestants américains les plus fanatiques sont aussi un danger du même tour. Donc, quelque part, c'est l'ensemble des religions et des fanatiques religieux que vous considérez comme un danger pour nous.
Je dis toujours, les gens peuvent aller avec des apostolats, la synagogue, si on entend qu'ils veulent, moi ça m'est complètement égal. Intellectuellement, j'aime pas la foi, parce que pour moi, la foi, c'est la démission de l'intelligence. La foi religieuse, c'est pas seulement la foi religieuse, la foi aveugle dans un système politique, ou je sais pas quoi, c'est aussi une démission. Mais non, ce que je refuse totalement, c'est la prévalence du religieux sur le civil. Et c'est le cas dans certaines sociétés. Et parfois, même si ce n'est pas le cas constitutionnellement, légalement, on n'échappe pas toujours dans le débat en Occident. L'opposition au mariage homosexuel. Je ne suis pas homosexuel, mais je suis juriste. Eh bien aussi, bon, je veux dire, le premier cours que j'ai eu à l'université en droit sur le mariage, la première chose que le prof nous a dit, il a dit qu'est-ce que c'est que le mariage ? C'est un contrat. C'est une forme du contrat de société. Je ne vois pas ce qui, dans un contrat de société, empêcherait la société, ça veut dire c'est la mise en commun de ressources, on peut venir à un but, hein, qui empêcherait deux personnes de même sexe d'être unies par un contrat comme ça. La seule opposition au mariage, elle est de type religieux. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. On parlait du suicide assisté. Il y a des gens qui sont dans des situations de détresse épouvantable, sans aucun espoir. Pourquoi est-ce qu'on y a des gens qui prétendent s'opposer politiquement à ça? Ça remonte à l'Église, qui disait si vous vous suicidez, vous irez en enfer. Donc je veux dire, on n'en est pas complètement sorti. À part ça, si quelqu'un a une conviction et un médecin qui dirait non, je ne peux absolument pas pratiquer ça, un médecin qui ne veut pas pratiquer l'avortement pour des raisons religieuses, à part certaines indications thérapeutiques, des choses comme ça. Moi, à la limite, je ne jette pas la pierre, mais qu'on laisse tranquille les cliniques qui le font. On se dégage de ça, ce sont deux systèmes de pensée totalement différents. Alors, je suis payé dans un autre débat, il y a une constitution notamment qui érige clairement le religieux au-dessus du civil, c'est la constitution iranienne, et c'est pour ça que dans ce que j'ai situé en 2031, j'ai dit que l'athéisme avait balayé une bonne partie du monde, et qu'il y a un centre mondial de l'athéisme qui s'est créé et qui est adhérent. J'espère que j'ai raison.
Bien, je vais ajouter quelque chose à propos de Georges, puisqu'il fait les prédictions que c'est un prophète redoutablement efficace. Deux anecdotes. Dans une de ses nouvelles, il a dû appeler textuellement, il fait dire à un de ses héros, non, le 11 septembre, c'est pas un jour où on prend l'avion. Il a dit sur son site aussi, je résumerai un peu la situation, l'attitude de certains gouvernements face à l'intégrisme musulman par un seul mot, soumission. C'est le mot que Houellebecq a choisi pour son roman. Voilà, deux exemples. Donc il n'est pas religieux, mais il est quand même prophète.
Space opéra, on part loin. Très loin dans les galaxies.
Pas si loin, non, pas dans les galaxies.
Enfin, vas-y, quand même.
Dans les exoplanètes.
Oui, d'accord. Alors, tout de suite, la forme scientifique, vous n'êtes pas scientifique, vous, personnellement.
Moi, j'ai fait deux formations. J'ai eu une formation en lettres à la fac de Genève. Donc, j'ai fait l'archéologie, l'égyptologie, la littérature un peu cette somme. Donc, c'est plutôt littéraire. Sauf que j'avais une branche, en fait, en sciences, c'était un peu un hybride, j'ai fait l'anthropologie, l'ethnologie, et ensuite j'ai fait un master à l'EPFL, en informatique.
nécessairement s'appuie sur un minimum de rigueur scientifique. C'est pas des romans scientifiques, mais un minimum de rigueur.
C'est un choix. C'est un choix mais, qui me plaît. Peut-être par rapport à mes lectures, j'aimais bien ce type de science-fiction quand j'étais jeune. J'ai beaucoup lu Asimov, Lovecraft, etc. Je pense que ça m'a beaucoup influencé. Voilà, c'est pour ça. Mais c'est pas forcément. J'ai aussi beaucoup écrit du fantastique que vous pourrez découvrir dans mon plein de nouvelles qui sort en mois d'août. Moi, j'écrivais plutôt du fantastique parce que la science-fiction me faisait peur, justement. Parce que j'avais envie d'écrire une science-fiction plus ou moins scientifique et je ne me sentais pas capable. Donc j'ai mis beaucoup de temps à écrire de la science-fiction. Mais en fait, j'aime bien ce type de science-fiction. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de délirer. C'est-à-dire prendre une base, puis ensuite d'extrapoler, puis d'aller plus loin. Donc, mais la base, oui, est relativement scientifique. Ouais.
Si vous aviez à présenter en 2-3 minutes un petit peu l'univers de Quantica pour le public, comment vous pourriez le présenter ?
Alors, on se trouve dans un futur, à peu près dans 300 ans. En 2012, on l'a découvert, ça c'est une anecdote, c'est pas vrai, mais on l'a fait passer comme un fait réel. Une planète extrasolaire, donc trouvée dans un système à double étoile, on l'a nommée Altamira, en fait, qui est normalement, c'est, je ne sais plus en quelle constellation, mais bon, j'ai un doute là, je suis un peu long. Mais donc voilà, on a trouvé une exoplanète glacée, donc ça veut dire qu'il fait trop froid. Elle est quand même dans la zone habitable, mais elle en sort un tout petit peu, ce qui fait qu'elle reste gelée. Et les colons, surtout ce qui a motivé, c'est qu'on a pu analyser l'atmosphère de cette planète et se sont rendu compte qu'elle avait une atmosphère similaire à la Terre. Donc il y avait eu certainement des formes de vie, de la chlorophylle dans un temps, de la photosynthèse dans une époque un peu reculée. Et ils ont pris la décision de s'y rendre. Donc on sait dans le futur. Et à peine arrivé en fait sur cette exoplanète, dans ce système Altamira, ils découvrent en fait qu'il y a un vaisseau qu'on appelle Artefact. On l'appelle le grand arc en orbite, un vaisseau comme un vaisseau fantôme abandonné. Et voilà, la colonie se fait, mais toujours avec une menace, c'est-à-dire on se dit, mais c'est quoi ce vaisseau? Il est insondable, impénétrable, pas de contact, hein. On imagine qu'il est abandonné, mais en fait on n'en sait rien. Et l'histoire débute avec un personnage, c'est une chercheuse exobiologiste qui est d'origine indienne, qui a été très musicienne dans son enfance, hindouiste. Et qui a tout rejeté suite à un traumatisme. Elle a perdu la mémoire, on ne sait pas pourquoi. Et à peine arrivée dans ce système planétaire, elle a un lien avec la musique. Et à peine arrivée dans ce système, elle perçoit en fait des sons. Elle perçoit des sons qui lui parlent et qui lui indiquent un endroit spécifique de cette planète, qui se situe évidemment sous la carapace de glace. Et elle décide de monter une expédition scientifique pour voir ce qu'il y a dessous. Et bien sûr, il découvre des vestiges. Ça, c'est le début, voilà. C'est le pitch, on va dire, de vestige. Et l'histoire se poursuit, ça va être tout. Bien sûr, ils ouvrent une boîte de Pandore qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir. Pour elle, cette émanation en fait, de ces sous-sols ressemble à ce qui s'apparente à une entité. Pour d'autres chercheurs, il y a une double expédition scientifique. C'est forcément une machine qui détraque les constantes universelles, parce qu'il y a un problème de paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des zones de la planète où tout d'un coup, l'échelle de Planck n'est plus la même, donc on passe dans le niveau quantique tout en étant à l'échelle macroscopique, donc il y a des paradoxes. Et le but, c'est de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui provoque ça, etc. Et cette chercheuse va se trouver confrontée à une civilisation ancienne qui a passé ici 12 000 ans avant la venue des hommes, des humains, et qui va devoir apprendre à communiquer avec une civilisation qui apparemment n'a pas de langage mathématique et pourtant qui est technologique. Donc voilà, c'est un point de perception différent et ça nous emmène très loin puisque dans le dernier tome on quitte la planète Gemma dans le système Altamira pour aller à l'origine en fait de cette civilisation sur leur planète d'origine qui se trouve dans un autre système solaire et on découvre qu'est-ce qui s'est passé, etc.
On est à 300 ans, on est loin, et là par contre, on a eu Georges Bonchard à quelques dizaines d'années aux États-Unis en Europe. On est aussi dans un monde européen avec François Rouillet et à relatif court terme. Les auteurs suisses en général, François, ce sont plutôt les auteurs qui partent comme Laurence très très loin dans le futur, assez loin dans le futur et loin dans l'espace, ou plutôt les auteurs qui sont retour à la Terre et une anticipation relativement court terme.
celle de ce bourgeois. En fait, les auteurs suisses sont plutôt attachés à la terre, ou plutôt au problème de société contemporain ou un peu extrapolé. C'est une exception de voir le space opéra de Laurence. Alors il y en a un ou deux de space opéra, mais ouais, il y en a qui remontent bien à l'heure. Il n'est pas très long, ça s'appelle Astrolabe. C'est le voyage, mais c'est un mélange, c'est le voyage d'un homme dans un scaphandre à travers les espaces intersidéraux. Mais c'est j'arrive bien, c'est plus que je voulais dire, parce que je cherche le nom d'auteur, j'arrive bien à le retrouver. Il est quelque part dans le bouquin. C'est plutôt un poème, un long poème en prose, en fait. Donc, ça touche la science-fiction, mais ça touche aussi la poésie. C'est Astrolabe, ça s'appelle. Jean Escou, merci, c'est un poète, je le vois. Rémi, poète, il a des poètes. Donc voilà, parce que c'est à ma connaissance le seul texte véritablement qui parle de l'espace, à moins que tu aies vu des nouvelles.
Je vais simplement pour dire que c'est pas vraiment ce que j'ai commencé à écrire maintenant. Une partie se passe dans un horizon à peu près 2050, mais l'essentiel du bouquin se passe dans un autre monde. On ne sait pas si ça touche les opéras parce qu'on ne sait pas comment ils sont arrivés là-bas. Est-ce que c'est de l'origine parce qu'il y a eu vraiment un voyage à l'interstellaire. Mais je dirais que c'est plutôt un livre monde.
Ouais, en ce qui me concerne, on m'a posé la question de savoir quel genre de science-fiction j'écrivais dans une dédicace. Je ne m'étais jamais posé la question. Et en réfléchissant, je m'aperçois que j'ai plusieurs planètes opéra. En fait, c'est des histoires vidéo sur d'autres planètes.
J'accrois à toi le titre de votre nouvelle dans Destination, ça c'est du planète opéra, ça se passe quand même dans une planète extraterrestre.
Oui, tout à fait, j'ai réfléchi après vous, les autres l'ont fait, c'est souvent ça, c'est souvent ce processus.
Alors que la nouvelle de François Rouguier, elle se déroule en Suisse d'ailleurs, en tout cas c'est pas du. Mais dans une société comme la nôtre, un petit peu légèrement fonctionniste, et c'est quand même beaucoup d'humour, hein, c'est une nouvelle très drôle.
C'est une histoire de drone, de coquine, mais où la morale est sombre. Voilà, on résumera ça comme ça.
C'est raconté par les yeux du drone et du pervers, mais vous verrez, c'est vraiment un texte très drôle, à la fin encore plus drôle, un peu cruel, mais drôle. Pour résumer un petit peu sur l'activité de la science-fiction suisse, là au-delà de vos ouvrages réciproques, il vit comment ce milieu de la science-fiction suisse? Il a des déjeuners, des dîners, des lieux de convivialité, des dynamiques. Je crois maintenant, Jean-François, que vous êtes directeur de collection aussi.
Oui, effectivement, j'ai réalisé ça là. Le milieu de la science-fiction suisse romande, en fait, il a quelques points d'approche. Alors, on va dire tout d'abord, en premier lieu, là, il y a la maison d'ailleurs, mais c'est peut-être pas là que c'est le plus dynamique. Il y a une association des amis de la maison d'ailleurs qui, elle, regroupe les gens qui veulent soutenir le musée. Donc là, il se passe des choses, ils font des publications et puis de temps en temps, ils demandent un coup de main pour monter un vernissage ou faire des conférences. Par exemple, il y a Alain Damasio qui a donné une conférence et tout. Il y a eu d'autres choses, il y a eu des vernissages de livres, par exemple. Et puis, il y a aussi, alors ça c'est peut-être le point où ça bouge le plus, c'est ce qu'ils appellent les mercredis de la SF. Les mercredis de la SF, ça a commencé à Paris, c'est venu ensuite à Genève, et puis ensuite à Lausanne, et c'est des milieux où les gens se retrouvent une fois par mois pour manger, et puis discuter, échanger. Et c'est l'occasion de créer des projets. Alors notamment, il y a quelques années, il y a eu un atelier d'écriture qui a été monté, qui a permis à certains auteurs d'écrire et de publier, notamment Lucas Moreno et Vincent Gessler, pour citer deux. Et puis, ça s'est un petit peu endormi, mais ça redémarre maintenant. Il y a de nouveau des personnes qui ont le projet et qui ont commencé à mettre sur pied des ateliers d'écriture. Cela étant, Laurence elle-même anime des ateliers d'écriture, tu peux peut-être en dire un mot.
Effectivement, j'ai essayé de lancer des ateliers d'écriture depuis un bon moment. Malheureusement, je ne des œuvres que j'aurais. Parce que je donne des ateliers, mais de scénario, dramaturgie, bande dessinée, à l'Université de Genève, avec la fac de Genève. Et par contre, là, j'ai enfin réussi à lancer mes ateliers d'écriture. Et il commence la semaine prochaine, c'est un atelier sur la nouvelle. Et il a lieu le jeudi, jusqu'à la fin juin. Et je pense que je vais continuer l'année prochaine, peut-être dans le cadre de l'université aussi. Autrement, c'est dans le cadre d'une école d'art à Carouge, qui est un quartier de Genève, on va dire comme ça, on va s'impliquer comme ça. Donc voilà. Et aussi les ateliers de dramaturgie, c'est-à-dire d'écriture scénaristique.
Sinon, malheureusement, aujourd'hui, on sait Internet, mais la communication est très facile à distance.
On n'en finit pas de trouver des nouvelles choses qui se passent. On a longtemps dit, par exemple, qu'il ne se passait pas grand-chose du côté de la Suisse allemande en matière de mouvement autour de la science-fiction et de littérature d'imaginaire. On a depuis récemment une série d'auteurs, la plupart jeunes, se sont fédérés en Suisse allemande avec un lieu de réunion à Zurich. Voilà un autre exemple de la vie de la science-fiction suisse sur place. Une autre activité qui a redémarré récemment, c'est l'édition d'un podcast, Coléopod, qui publie régulièrement sous forme de fichiers audio téléchargeables, podcastables, des nouvelles, parfois traduites, parfois d'auteurs du cru ou d'auteurs français. Donc il y a effectivement pas mal d'activités de tout poil. Science-fiction en Suisse romande et on découvre presque chaque semaine de nouveaux auteurs et de nouveaux cadres.
Je peux dire qu'on a lu beaucoup de nouvelles, surtout mais aussi de romans et j'ai encore d'autres à découvrir. Que vraiment, il y a un milieu extrêmement vivace, dynamique, intéressant, des auteurs de grande qualité. Donc, je vous conseille pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore beaucoup cette littérature et ses auteurs, c'est aussi des auteurs individuels. De lire donc la grande anthologie historique de la science-fiction suisse par notre ami Jean-François Thomas aux éditions Bernard Campiche, Défricheur d'imaginaire. Ensuite, Futur insolite, une anthologie par Elena Vedja et par Jean-François Thomas. C'est une vision de la Suisse par beaucoup d'auteurs suisses et quelques auteurs français. Merci Jean-François de cette coopération. Dimension suisse, les auteurs ne sont pas présents cette année, mais Vincent était déjà venu et Anthony Mala aussi. Chez Rivière Blanche, une anthologie, surtout de SF, un peu fantastique, Dimension Suisse, qui a un bon volume aussi. Évidemment, les deux ouvrages de notre ami Georges Panchard, Forteresse, vraiment un grand thriller d'anticipation, et puis Heptagone, le même univers où on retrouve au travers de sortes de nouvelles qui finissent par former un roman, et qui développe un petit peu les principaux personnages de Forteresse, donc Heptagone, aux éditions Lafond, le premier étant réédité au livre de poche. La trilogie Quantica de Space Opera de.
Juste à ajouter aussi, après Quantica, il y a un recueil de nouvelles qui sort à la Talente en août, si jamais c'est que des nouvelles. Dans
des nouvelles
de
Laurence.
Oui, en fait, à la Talente, qui s'appelle Terminator suite à la nouvelle qui paraît dans Mitchell.
D'accord.
Donc ça, si jamais vous.
Eh bien, la trilogie Quantica, il y a de quoi faire déjà, c'est très parfait pour l'été. Petite note personnelle, ma compagne a vu la trilogie, elle a été emballée. Bon, voilà, c'est la très belle science-fiction. Par ailleurs, donc ce recueil de nouvelles qu'on verra arriver à la Talente aussi cet été. Métakine de François Rouillet, un grand roman d'anticipation en deux volumes aux éditions La Talente, qui décidément publie beaucoup d'auteurs suisses. Et puis, on a cité les anthologies de Jean-François Thomas et plein d'autres auteurs que vous pourrez découvrir. Les auteurs suisses étaient invités cette année, le pays invité. D'autres auteurs suisses tout à fait intéressants existent aussi.